Cependant, Madame Bontemps, qui avait dit 100 fois qu'elle ne voulait pas aller chez les Verdurin, ravie d'être invitée au mercredi, était en train de calculer comment elle pourrait s'y rendre le plus de fois possible. Elle ignorait que Madame Verdurin souhaitait qu'on n'en manquât aucun. D'autre part, elle était de ces personnes peu recherchées qui, quand elles sont conviées à des séries par une maîtresse de maison, ne vont pas chez elles, comme ceux qui savent toujours faire plaisir, quand ils ont un moment et le désir de sortir. Elle, au contraire, se prive par exemple de la première soirée et de la troisième, s'imaginant que leur absence sera remarquée, et se réserve pour la deuxième et la quatrième. À moins que leurs informations, leur ayant appris que la troisième sera particulièrement brillante, elles ne suivent un ordre inverse, alléguant que, malheureusement la dernière fois, elles n'étaient pas libres. Telle Madame Bontemps supputait combien il pouvait y avoir encore de mercredi avant Pâques et de quelle façon elle arriverait à en avoir un de plus. Sans pourtant paraître s'imposer, elle comptait sur Madame Cottard, avec laquelle elle allait revenir, pour lui donner quelques indications. « Oh, Madame Bontemps, je vois que vous vous levez. C'est très mal de donner ainsi le signal de la fuite. » Vous me devez une compensation pour n'être pas venu jeudi dernier. Allons, rasseyez-vous un moment. Vous ne ferez tout de même pas d'autres visites avant le dîner. Vraiment, vous ne vous laissez pas tenter, ajoutait Madame Swann, et tout en tendant une assiette de gâteau, vous savez que ce n'est pas mauvais du tout, ces petites saletés-là. Ça ne paye pas de mine, mais goûtez-en, vous m'en direz des nouvelles. « Au contraire, ça a l'air délicieux, » répondait Madame Cottard. « Chez vous, Odette, on n'est jamais à court de victuailles. Je n'ai pas besoin de vous demander la marque de fabrique, je sais que vous faites tout venir de chez Rebatté. Je dois dire que je suis plus éclectique. Pour les petits fours, pour toutes les friandises, je m'adresse souvent à Bourbonneux. Mais je reconnais qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une glace. » Rebatté, pour tout ce qui est glace bavaroise ou sorbet, c'est grand art, comme dirait mon mari, le nec plus ultra. Mais ceci est tout simplement fait ici, vraiment non? Je ne pourrais pas dîner, répondait Madame Bontemps, mais je me rassieds un instant, vous savez, moi j'adore causer avec une femme intelligente comme vous. Vous allez me trouver indiscrète, Odette, mais j'aimerais savoir comment vous jugez le chapeau qu'avait Madame Trombert. Je sais bien que la mode est au grand chapeau. Tout de même, n'y a-t-il pas un peu d'exagération? Et à côté de celui avec lequel elle est venue l'autre jour chez moi, celui qu'elle portait tantôt était microscopique. Mais non, je ne suis pas intelligente, disait Odette, pensant que cela faisait bien. Je suis au fond une gobeuse qui croit tout ce qu'on lui dit, qui se fait du chagrin pour un rien. Et elle insinuait qu'elle avait, au commencement, beaucoup souffert d'avoir épousé un homme comme Swann qui avait une vie de son côté et qui l'a trompée. Cependant, le prince d'Agrigente, ayant entendu les mots « je ne suis pas intelligente », trouvait de son devoir de protester. Mais il n'avait pas d'esprit de répartie. « Taratata !» s'écriait Madame Bontemps, « vous pas intelligente !»« En effet, je me disais, qu'est-ce que j'entends ?» disait le prince en saisissant cette perche. « Il faut que mes oreilles m'aient trompé. » « Mais non, je vous assure, disait Odette, je suis au fond une petite bourgeoise très choquable, pleine de préjugés, vivant dans son trou, surtout très ignorante. Et pour demander des nouvelles du baron de Charlus, avez-vous vu, cher baronnet ? Lui disait-elle. « Vous, ignorante ! S'écriait Madame Bontemps. Eh bien alors, qu'est-ce que vous diriez du monde officiel ? Toutes ces femmes d'excellence qui ne savent parler que de chiffons. Tenez, madame, pas plus tard qu'il y a 8 jours, je mets sur l'ONIN la ministresse de l'instruction publique. Elle me répond, Lohengrin ? Ah oui, la dernière revue des Folies Bergères, Il paraît que c'est tordant. Eh bien, madame, qu'est-ce que vous voulez? Quand on entend des choses comme ça, ça vous fait bouillir. J'avais envie de la gifler, parce que j'ai mon petit caractère, vous savez. Voyons, monsieur, disait-elle en se tournant vers moi, est-ce que je n'ai pas raison? Écoutez, disait madame Cottard, on est excusable de répondre un peu de travers quand on est interrogé ainsi de but en blanc sans être prévenu. J'en sais quelque chose, car madame Verdurin a l'habitude de nous mettre ainsi le couteau sur la gorge. À propos de madame Verdurin, demandait madame Bontemps à madame Cottard, savez-vous qui il y aura mercredi chez elle? Ah, je me rappelle maintenant que nous avons accepté une invitation pour mercredi prochain. Vous ne voulez pas dîner de mercredi en 8 avec nous? Nous irions ensemble chez madame Verdurin. Cela m'intimide d'entrer seule. Je ne sais pas pourquoi, cette grande femme m'a toujours fait peur. Je vais vous le dire, répondait madame Cottard. Ce qui vous effraie chez madame Verdurin, c'est son organe. Que voulez-vous? Tout le monde n'a pas un aussi joli organe que madame Swann. Mais le temps de prendre langue, comme dit la patronne, et la glace sera bientôt rompue, car dans le fond, elle est très accueillante. Mais je comprends très bien votre sensation, ce n'est jamais agréable de se trouver la première fois en pays perdu. Vous pourriez aussi dîner avec nous, disait madame Bontemps à madame Swann. Après dîner, on irait tous ensemble en Verdurin, faire Verdurin. Et même si ce devait avoir pour effet que la patronne me fasse les gros yeux et ne m'invite plus, une fois chez elle, nous restons toutes les trois à causer entre nous, je sens que c'est ce qui m'amusera le plus. Mais cette affirmation ne devait pas être très véridique, car madame Bontemps demandait « Qui pensez-vous qu'il y aura de mercredi en 8? Qu'est-ce qui se passera ?»« Il n'y aura pas trop de monde au moins. »« Moi, je n'irai certainement pas, disait Odette. Nous ne ferons qu'une petite apparition au mercredi final, si cela vous est égal d'attendre jusque-là. » Mais madame Bontemps ne semblait pas séduite par cette proposition d'ajournement. Bien que les mérites spirituels d'un salon et son élégance soient généralement en rapport inverse plutôt que direct, il faut croire, puisque Swann trouvait madame Bontemps agréable, que toute déchéance acceptée a pour conséquence de rendre les gens moins difficiles sur ceux avec qui ils sont résignés à se plaire. Moins difficile sur leur esprit comme sur le reste. Et si cela est vrai, les hommes doivent, comme les peuples, voir leur culture et même leur langage disparaître avec leur indépendance. Un des effets de cette indulgence est d'aggraver la tendance qu'à partir d'un certain âge, on a à trouver agréable les paroles qui sont un hommage à notre propre tour d'esprit, à nos penchants, un encouragement à nous y livrer. Cet âge-là est celui où un grand artiste préfère à la société de génies originaux celle d'élèves qui n'ont en commun avec lui que la lettre de sa doctrine et par qui il est encensé, écouté. Ou un homme ou une femme remarquable qui vivent pour un amour trouveront la plus intelligente dans une réunion la personne peut-être inférieure, mais dont une phrase aura montré qu'elle sait comprendre et approuver ce qu'est une existence vouée à la galanterie, et aura ainsi chatouillé agréablement la tendance voluptueuse de l'amant ou de la maîtresse. C'était l'âge aussi où Swann, en tant qu'il était devenu le mari d'Odette, se plaisait à entendre dire à madame Bontemps que c'est ridicule de ne recevoir que des duchesses. Concluant de là, au contraire de ce qu'il eût fait jadis chez les Verdurin, que c'était une bonne femme, très spirituelle, et qui n'était pas snob. Et à lui raconter des histoires qui la faisaient tordre, parce qu'elle ne les connaissait pas, et que d'ailleurs elle saisissait vite, aimant à flatter et à s'amuser. « Alors le docteur ne raffole pas comme vous des fleurs ?» demandait madame Swann à madame Cottard. Oh, vous savez que mon mari est un sage, il est modéré en toutes choses. si pourtant il a une passion. L'œil brillant de malveillance, de joie et de curiosité, laquelle, madame ? Demandait madame Bontemps. Avec simplicité, madame Cottard répondait « La lecture ». « Oh, c'est une passion de tout repos chez un mari !» s'écriait madame Bontemps en étouffant un rire satanique. « Quand le docteur est dans un livre, vous savez, eh bien, madame, cela ne doit pas vous effrayer beaucoup. Mais si, pour sa vue... Je vais aller le retrouver, Odette, et je reviendrai au premier jour frapper à votre porte. » À propos de vue, vous a-t-on dit que l'hôtel particulier que vient d'acheter Madame Verdurin sera éclairé à l'électricité ? Je ne le tiens pas de ma petite police particulière, mais d'une autre source. C'est l'électricien lui-même, Mildet, qui me l'a dit. Vous voyez que je cite mes auteurs. Jusqu'aux chambres qui auront leurs lampes électriques avec un abat-jour qui tamisera la lumière. C'est évidemment un luxe charmant. D'ailleurs, nos contemporaines veulent absolument du nouveau, n'en fût-il plus au monde. Il y a la belle-sœur d'une de mes amies qui a le téléphone posé chez elle. Elle peut faire une commande à un fournisseur sans sortir de son appartement. J'avoue que j'ai platement intrigué pour avoir la permission de venir un jour parler devant l'appareil. Cela me tente beaucoup, mais plutôt chez une amie que chez moi. Il me semble que je n'aimerais pas avoir le téléphone à domicile. Le premier amusement passé, cela doit être un vrai casse-tête. Allons, Odette, je me sauve. Ne retenez plus madame Bontemps puisqu'elle se charge de moi. Il faut absolument que je m'arrache. Vous me faites faire du joli. Je vais rentrer après mon mari. Et moi aussi, il fallait que je rentrasse, avant d'avoir goûté à ces plaisirs de l'hiver, desquels les chrysanthèmes m'avaient semblé être l'enveloppe éclatante. Ces plaisirs n'étaient pas venus, et cependant madame Swann n'avait pas l'air d'attendre encore quelque chose. Elle laissait les domestiques emporter le thé, comme elle aurait annoncé « on ferme ». Et elle finissait par me dire « Alors vraiment, vous partez ? Eh bien, goodbye !» Je sentais que j'aurais pu rester sans rencontrer ces plaisirs inconnus et que ma tristesse n'était pas seule à m'avoir privé d'eux. Ne se trouvait-il donc pas situé sur cette route battue des heures qui mène toujours si vite à l'instant du départ, mais plutôt sur quelque chemin de traverse inconnu de moi et par où il eût fallu bifurquer. Du moins, le but de ma visite était atteint. Gilberte saurait que j'étais venu chez ses parents quand elle n'était pas là et que j'y avais, comme n'avait cessé de le répéter madame Cottard, fait d'emblée, de prime abord, la conquête de madame Verdurin. « Il faut, m'avait dit la femme du docteur, qui ne l'avait jamais vu faire autant de frais, que vous ayez ensemble des atomes crochus. » Gilberte saurait que j'avais parlé d'elle comme je devais le faire avec tendresse, mais que je n'avais pas cette incapacité de vivre sans que nous nous vissions, que je croyais à la base de l'ennui qu'elle avait éprouvé ces derniers temps auprès de moi. J'avais dit à madame Swann que je ne pouvais plus me trouver avec Gilberte. Je l'avais dit comme si j'avais décidé pour toujours de ne plus la voir. Et la lettre que j'allais envoyer à Gilberte serait conçue dans le même sens. Seulement à moi-même, pour me donner courage, je ne me proposais qu'un suprême et court effort de peu de jours. Je me disais « C'est le dernier rendez-vous d'elle que je refuse ». J'accepterai le prochain. Pour me rendre la séparation moins difficile à réaliser, je ne me la représentais pas comme définitive, mais je sentais bien qu'elle le serait. Le 1er janvier me fut particulièrement douloureux cette année-là. Tous les sans doute qui fait date et anniversaire quand on est malheureux. Mais si c'est par exemple d'avoir perdu un être cher, la souffrance consiste seulement dans une comparaison plus vive avec le passé. Il s'y ajoutait dans mon cas l'espoir informulé que Gilberte, ayant voulu me laisser l'initiative des premiers pas et constatant que je ne les avais pas faits, n'avait attendu que le prétexte du 1er janvier pour m'écrire « Enfin, qu'y a-t-il ? Je suis folle de vous. Venez que nous nous expliquions franchement. Je ne peux pas vivre sans vous voir. » Dès les derniers jours de l'année, cette lettre me parut probable. Elle ne l'était peut-être pas, mais pour que nous la croyions telle, le désir, le besoin que nous en avons suffit. Le soldat est persuadé qu'un certain délai, indéfiniment prolongeable, lui sera accordé avant qu'il soit tué. Le voleur, avant qu'il soit pris. Les hommes, en général, avant qu'ils aient à mourir. C'est là l'amulette qui préserve les individus et parfois les peuples, non du danger, mais de la peur du danger, en réalité de la croyance au danger, ce qui, dans certains cas, permet de le braver sans qu'il soit besoin d'être brave. Une confiance de ce genre est aussi peu fondée, soutient l'amoureux, qui compte sur une réconciliation, sur une lettre. Pour que je n'eusse pas attendu celle-là, il eût suffi que j'eusse cessé de la souhaiter. Si indifférent qu'on sache que l'on est à celle qu'on aime encore, on lui prête une série de pensées, fussent-elles d'indifférence, une intention de les manifester, une complication de vie intérieure, où l'on est l'objet peut-être d'une antipathie, mais aussi d'une attention permanente. Pour imaginer au contraire ce qui se passait en Gilberte, il eût fallu que je pusse tout simplement anticiper dès ce 1er janvier-là ce que j'eusse ressenti celui d'une des années suivantes, et où l'attention, ou le silence, ou la tendresse, ou la froideur de Gilberte eussent passé à peu près inaperçus à mes yeux, et où je n'eusse pas songé, pas même pu songer à chercher la solution de problèmes qui auraient cessé de se poser pour moi. Quand on aime, l'amour est trop grand pour pouvoir être contenu tout entier en nous, il irradie vers la personne aimée, rencontre en elle une surface qui l'arrête, le force à revenir vers son point de départ, et c'est ce choc en retour de notre propre tendresse que nous appelons les sentiments de l'autre et qui nous charme plus qu'à l'aller parce que nous ne reconnaissons pas qu'elle vient de nous. Le 1er janvier sonna toutes les heures sans qu'arrivât cette lettre de Gilberte, et comme j'en reçus quelques-unes de vœux tardifs ou retardés par l'encombrement des courriers de ces dates-là, le 3 et le 4 janvier, j'espérais encore, de moins en moins pourtant. Les jours qui suivirent, je pleurais beaucoup. Certes, cela tenait à ce qu'ayant été moins sincère que je ne l'avais cru, quand j'avais renoncé à Gilberte, j'avais gardé cet espoir d'une lettre d'elle pour la nouvelle année, et le voyant épuisé avant que j'eusse eu le temps de me précautionner d'un autre, je souffrais comme un malade qui a vidé sa fiole de morphine sans en avoir sous la main une seconde. Mais peut-être en moi, et ces deux explications ne s'excluent pas, car un seul sentiment est quelquefois fait de contraire, l'espérance que j'avais de recevoir enfin une lettre avait-elle rapproché de moi l'image de Gilberte, recréé les émotions que l'attente de me trouver près d'elle, sa vue, sa manière d'être avec moi, me causait autrefois? La possibilité immédiate d'une réconciliation avait supprimé cette chose de l'énormité de laquelle nous ne nous rendons pas compte, la résignation. Les neurasthéniques ne peuvent croire les gens qui leur assurent qu'ils seront à peu près calmés en restant au lit sans recevoir de lettres, sans lire de journaux. Ils se figurent que ce régime ne fera qu'exaspérer leur nervosité. De même, les amoureux, le considérant du sein d'un état contraire, n'ayant pas commencé de l'expérimenter, ne peuvent croire à la puissance bienfaisante du renoncement. À cause de la violence de mes battements de cœur, on me fit diminuer la caféine, ils cessèrent. Alors je me demandais si ce n'était pas un peu à elle qu'était due cette angoisse que j'avais éprouvée quand je m'étais à peu près brouillé avec Gilberte, et que j'avais attribué chaque fois qu'elle se renouvelait à la souffrance de ne plus voir mon amie, ou de risquer de ne la voir qu'en proie à la même mauvaise humeur. Mais si ce médicament avait été à l'origine des souffrances que mon imagination eût alors faussement interprétées, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire, les plus cruelles peines morales ayant souvent pour cause chez les amants l'habitude physique de la femme avec qui ils vivent, c'était à la façon du filtre qui, longtemps après avoir été absorbé, continue à lier Tristan à Iseult. Car l'amélioration physique que la diminution de la caféine amena presque immédiatement chez moi n'arrêta pas l'évolution du chagrin que l'absorption du toxique avait peut-être, sinon créé, du moins su rendre plus aigu. Seulement quand le milieu du mois de janvier approcha, une fois déçues mes espérances d'une lettre pour le jour de l'an et la douleur supplémentaire qui avait accompagné leur déception une fois calmée, ce fut mon chagrin d'avant les fêtes qui recommença. Ce qu'il y avait peut-être encore en lui de plus cruel, c'est que j'en fusse moi-même l'artisan inconscient, volontaire, impitoyable et patient. La seule chose à laquelle je tinsse mes relations avec Gilberte, c'est moi qui travaillais à les rendre impossibles en créant peu à peu, par la séparation prolongée d'avec mon ami, non pas son indifférence, mais ce qui reviendrait finalement au même, la mienne. C'était un long et cruel suicide du moi qui, en moi-même, aimait Gilberte, que je m'acharnais avec continuité, avec la clairvoyance non seulement de ce que je faisais dans le présent, mais de ce qui en résulterait pour l'avenir. Je savais non pas seulement que dans un certain temps je n'aimerais plus Gilberte, mais encore qu'elle-même le regretterait, et que les tentatives qu'elle ferait alors pour me voir seraient aussi vaines que celles d'aujourd'hui. Non plus parce que je l'aimerais trop, mais parce que j'aimerais certainement une autre femme que je resterais à désirer, à attendre pendant des heures, dont je n'oserais pas distraire une parcelle pour Gilberte, qui ne me serait plus rien. Et sans doute en ce moment même, ou puisque j'étais résolu à ne plus la voir, à moins d'une demande formelle d'explication, d'une complète déclaration d'amour de sa part, lesquelles n'avaient plus aucune chance de venir, j'avais déjà perdu Gilberte et l'aimais davantage, je sentais tout ce qu'elle était pour moi mieux que l'année précédente, qu'en passant tous mes après-midi avec elle, selon que je voulais, je croyais que rien ne menaçait notre amitié. Sans doute en ce moment l'idée que j'éprouverais un jour les mêmes sentiments pour une autre m'était odieuse, car cette idée m'enlevait, outre Gilberte, mon amour et ma souffrance. Mon amour, ma souffrance, où en pleurant j'essayais de saisir justement ce qu'était Gilberte, et desquels il me fallait reconnaître qu'il ne lui appartenait pas spécialement et serait, tôt ou tard, le lot de telle ou telle femme. De sorte, c'était du moins alors ma manière de penser, qu'on est toujours détaché des êtres. Quand on aime, on sent que cet amour ne porte pas leur nom, pourra dans l'avenir renaître, aurait pu même dans le passé naître pour une autre et non pour celle-là. Et dans le temps où l'on n'aime pas, si l'on prend philosophiquement son parti de ce qu'il y a de contradictoire dans l'amour, c'est que cet amour dont on parle à son aise, on ne l'éprouve pas alors, donc on ne le connaît pas, la connaissance en ces matières étant intermittente et ne survivant pas à la présence effective du sentiment. Cet avenir où je n'aimerais plus Gilberte et que ma souffrance m'aidait à deviner sans que mon imagination pût encore se le représenter clairement, certes il eût été temps encore d'avertir Gilberte qu'il se formerait peu à peu, que sa venue était sinon imminente, du moins inéluctable, si elle-même, Gilberte, ne venait pas à mon aide et ne détruisait pas dans son germe ma future indifférence. Combien de fois ne fus-je pas sur le point d'écrire ou d'aller dire à Gilberte « Prenez garde !» J'en ai pris la résolution, la démarche que je fais est une démarche suprême. Je vous vois pour la dernière fois, bientôt je ne vous aimerai plus. À quoi bon ? De quel droit eussé-je reproché à Gilberte une indifférence que, sans me croire coupable pour cela, je manifestais à tout ce qui n'était pas elle ? La dernière fois, à moi cela me paraissait quelque chose d'immense, parce que j'aimais Gilberte. À elle cela lui fait sans doute autant d'impression que ses lettres où des amis demandent à nous faire une visite avant de s'expatrier. Visite que, comme aux ennuyeuses femmes qui nous aiment, nous le refusons, parce que nous avons des plaisirs devant nous. Le temps dont nous disposons chaque jour est élastique. Les passions que nous ressentons le dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent, et l'habitude le remplit. D'ailleurs, j'aurais eu beau parler à Gilberte, elle ne m'aurait pas entendu. Nous nous imaginons toujours quand nous parlons que ce sont nos oreilles, notre esprit, qui écoutent. Mes paroles ne seraient parvenues à Gilberte que déviées, comme si elles avaient eu à traverser le rideau mouvant d'une cataracte avant d'arriver à mon ami, méconnaissable, rendant un son ridicule, n'ayant plus aucune espèce de sens. La vérité qu'on met dans les mots ne se ferait pas son chemin directement, n'est pas douée d'une évidence irrésistible. Il faut qu'assez de temps passe pour qu'une vérité de même ordre ait pu se former en eux. Alors l'adversaire politique, qui malgré tous les raisonnements et toutes les preuves, tenait le sectateur de la doctrine opposée pour un traître, partage lui-même la conviction détestée à laquelle celui qui cherchait inutilement à la répandre ne tient plus. Alors le chef-d'œuvre, qui pour les admirateurs qui le lisaient haut, semblait montrer en soi les preuves de son excellence et n'offrait à ceux qui écoutaient qu'une image insane ou médiocre, sera par eux proclamé chef-d'œuvre, trop tard pour que l'auteur puisse l'apprendre. Pareillement, en amour, les barrières, quoi qu'on fasse, ne peuvent être brisées du dehors par celui qu'elle désespère, et c'est quand il ne se souciera plus d'elle que tout d'un coup, par l'effet du travail venu d'un autre côté, accompli à l'intérieur de celle qui n'aimait pas, ces barrières attaquées jadis sans succès tomberont sans utilité. Si j'étais venu annoncer à Gilberte mon indifférence future et le moyen de la prévenir, elle aurait induit de cette démarche que mon amour pour elle, le besoin que j'avais d'elle, était encore plus grand qu'elle n'avait cru, et son ennui de me voir en eût été augmenté. Mais il est bien vrai du reste que c'est cet amour qui m'aidait par les états d'esprit disparates qu'il faisait se succéder en moi, à prévoir mieux qu'elle la fin de cet amour. Pourtant, un tel avertissement, je l'eusse peut-être adressé par lettre ou de vive voix à Gilberte, quand assez de temps eut passé, me la rendant ainsi, il est vrai, moins indispensable, mais aussi ayant pu lui prouver qu'elle ne me l'était pas. Malheureusement, certaines personnes, bien ou mal intentionnées, lui parlèrent de moi d'une façon qui dut lui laisser croire qu'elle le faisait à ma prière. Chaque fois que j'appris ainsi que Cottard, ma mère elle-même, et jusqu'à M. de Norpois, avaient, par de maladroites paroles, rendu inutile tout le sacrifice que je venais d'accomplir, gâché tout le résultat de ma réserve, en me donnant faussement l'air d'en être sorti, j'avais un double ennui. D'abord, je ne pouvais plus faire dater que de ce jour-là ma pénible et fructueuse abstention que les fâcheux avaient, à mon insu, interrompue et par conséquent annihilée. Mais de plus, j'eusse eu moins de plaisir à voir Gilberte, qui me croyait maintenant non plus dignement résigné, mais manœuvrant dans l'ombre pour une entrevue qu'elle avait dédaigné d'accorder. Je maudissais ces vains bavardages de gens qui souvent, sans même l'intention de nuire ou de rendre service, pour rien, pour parler, quelquefois parce que nous n'avons pas pu nous empêcher de le faire devant eux, et qu'ils sont indiscrets comme nous, nous causent à point nommé tant de mal. Il est vrai que dans la funeste besogne accomplie pour la destruction de notre amour, ils sont loin de jouer un rôle égal à deux personnes qui ont pour habitude, l'une par excès de bonté et l'autre de méchanceté, de tout défaire au moment que tout allait s'arranger. Mais ces deux personnes-là, nous ne leur en voulons pas comme aux inopportuns cotards, car la dernière, c'est la personne que nous aimons, et la première, c'est nous-mêmes. Cependant, comme presque chaque fois que j'allais la voir, Madame Swann m'invitait à venir goûter avec sa fille et me disait de répondre directement à celle-ci. J'écrivais souvent à Gilberte et dans cette correspondance, je ne choisissais pas les phrases qui eussent pu, me semblait-il, la persuader. Je cherchais seulement à frayer le lit le plus doux au ruissellement de mes pleurs. Car le regret, comme le désir, ne cherche pas à s'analyser, mais à se satisfaire. Quand on commence d'aimer, on passe le temps non à savoir ce qu'est son amour, mais à préparer les possibilités des rendez-vous du lendemain. Quand on renonce, on cherche non à connaître son chagrin, mais à offrir de lui à celle qui le cause l'expression qui nous paraît la plus tendre. On dit les choses qu'on éprouve le besoin de dire et que l'autre ne comprendra pas. On ne parle que pour soi-même. J'écrivais, j'avais cru que ce ne serait pas possible. Hélas, je vois que ce n'est pas si difficile. Je disais aussi, je ne vous verrai probablement plus. Je le disais en continuant à me garder d'une froideur qu'elle eût pu croire affectée. Et ces mots, en les écrivant, me faisaient pleurer parce que je sentais qu'ils exprimaient non ce que j'aurais voulu croire, mais ce qui arriverait en réalité. Car à la prochaine demande de rendez-vous qu'elle me ferait adresser, j'aurais encore, comme cette fois, le courage de ne pas céder, et de refus en refus, j'arriverais peu à peu au moment où, à force de ne plus l'avoir vue, je ne désirerais pas la voir. Je pleurais et je trouvais le courage, je connaissais la douceur de sacrifier le bonheur d'être auprès d'elle à la possibilité de lui paraître agréable un jour où, hélas, lui paraître agréable me serait indifférent. L'hypothèse même, pourtant si peu vraisemblable qu'en ce moment, comme elle l'avait prétendu pendant la dernière visite que je lui avais faite, elle m'aima, que ce que je prenais pour l'ennui qu'on éprouve auprès de quelqu'un dont on est là ne fût dû qu'à une susceptibilité jalouse, à une feinte d'indifférence analogue à la mienne, ne faisait que rendre ma résolution moins cruelle. Il me semblait alors que dans quelques années, après que nous nous serions oubliés l'un l'autre, quand je pourrais rétrospectivement lui dire que cette lettre, qu'en ce moment j'étais en train de lui écrire, n'avait été nullement sincère, elle me répondrait « Comment, vous, vous m'aimiez ?» Si vous saviez comme je l'attendais, cette lettre, comme j'espérais un rendez-vous, comme elle me fit pleurer, La pensée, pendant que je lui écrivais, aussitôt rentré de chez sa mère, que j'étais peut-être en train de consommer précisément ce malentendu-là, cette pensée, par sa tristesse même, par le plaisir d'imaginer que j'étais aimé de Gilberte, me poussait à continuer ma lettre. Si au moment de quitter Madame Swann, quand son thé finissait, je pensais à ce que j'allais écrire à sa fille, Madame Cottard, elle, en s'en allant, avait des pensées d'un caractère tout différent. Faisant sa petite inspection, elle n'avait pas manqué de féliciter Madame Swann sur les meubles nouveaux, les récentes acquisitions remarquées dans le salon. Elle pouvait d'ailleurs y retrouver, quoique en bien petit nombre, quelques-uns des objets qu'Odette avait autrefois dans l'hôtel de la rue La Pérouse, notamment ses animaux en matière précieuse, ses fétiches. Mais Madame Swann, ayant appris d'un ami qu'elle vénérait le mot « tocard », lequel avait ouvert de nouveaux horizons parce qu'il désignait précisément les choses que quelques années auparavant elle avait trouvées « chic », toutes ces choses-là successivement avaient suivi dans leur retraite le treillage doré qui servait d'appui aux chrysanthèmes, maintes bonbonnières de chez Giroux, et le papier à lettres à couronne, pour ne pas parler des louis en carton semés sur les cheminées, et que bien avant qu'elle connût Swann, un homme de goût lui avait conseillé de sacrifier. D'ailleurs, dans le désordre artiste, dans le pêle-mêle d'ateliers, des pièces au mur encore peint de couleurs sombres qui les faisaient aussi différentes que possible des salons blancs que Madame Swann eut un peu plus tard, l'Extrême-Orient reculait de plus en plus devant l'invasion du XVIIIe siècle, et les coussins que, afin que je fusse plus confortable, Madame Swann entassait et pétrissait derrière mon dos, étaient semés de bouquets Louis XV, et non plus comme autrefois de dragons chinois. Dans la chambre où on la trouvait le plus souvent et dont elle disait « Oui, je l'aime assez, je m'y tiens beaucoup, je ne pourrais pas vivre au milieu de choses hostiles et pompiers, c'est ici que je travaille », sans d'ailleurs préciser si c'était un tableau, peut-être un livre, le goût d'en écrire commençait à venir aux femmes qui aiment à faire quelque chose et à ne pas être inutiles. Elle était entourée de saxes, aimant cette dernière sorte de porcelaine, dont elle prononçait le nom avec un accent anglais, jusqu'à dire à propos de tout « C'est joli, cela ressemble à des fleurs de saxe ». Elle redoutait pour eux, plus encore que jadis pour ses magots et ses potiches, le toucher ignorant des domestiques auxquels elle faisait expier les transes qu'il lui avait données par des emportements auxquels Swann, maître si poli et doux, assistait sans en être choqué. La vue lucide de certaines infériorités n'ôte d'ailleurs rien à la tendresse, celle-ci les fait au contraire trouver charmantes. Maintenant, c'était plus rarement dans des robes de chambre japonaises qu'Odette recevait ses intimes, mais plutôt dans les soies claires et mousseuses de peignoirs watteau, desquelles elle faisait le geste de caresser sur ses seins l'écume fleurie, et dans lesquelles elle se baignait, se prélassait, s'ébattait, avec un tel air de bien-être, de rafraîchissement de la peau, et des respirations si profondes, qu'elle semblait les considérer non pas comme décoratives à la façon d'un cadre, mais comme nécessaires de la même manière que le tub et le footing, pour contenter les exigences de sa physionomie et les raffinements de son hygiène. Elle avait l'habitude de dire qu'elle se passerait plus aisément de pain que d'art et de propreté, et qu'elle eût été plus triste de voir brûler la Joconde que des foultitudes de personnes qu'elle connaissait. Théorie qui semblait paradoxale à ses amis, mais la faisait passer pour une femme supérieure auprès d'elle, et lui valait une fois par semaine la visite du ministre de Belgique. De sorte que dans le petit monde dont elle était le soleil, chacun eût été bien étonné si l'on avait appris qu'ailleurs, chez les Verdurin par exemple, elle passa pour bête. À cause de cette vivacité d'esprit, Madame Swann préférait la société des hommes à celle des femmes. Mais quand elle critiquait celle-ci, c'était toujours en cocotte, signalant en elle les défauts qui pouvaient leur nuire auprès des hommes. De grosses attaches, un vilain teint, pas d'orthographe, des poils aux jambes, une odeur pestilentielle, de faux sourcils. Pour telle, au contraire, qui lui avait jadis montré de l'indulgence et de l'amabilité, elle était plus tendre, surtout si celle-ci était malheureuse. Elle la défendait avec adresse et disait « On est injuste pour elle, car c'est une gentille femme, je vous assure. » Ce n'était pas seulement l'ameublement du salon d'Odette, c'était Odette elle-même que Madame Cottard et tous ceux qui avaient fréquenté Madame de Crécy auraient eu peine, s'ils ne l'avaient pas vue depuis longtemps, à reconnaître. Elle semblait avoir tant d'années de moins qu'autrefois. Sans doute cela tenait en partie à ce qu'elle avait engraissé et devenue mieux portante, avait l'air plus calme, frais, reposé, et d'autre part à ce que les coiffures nouvelles aux cheveux lissés donnaient plus d'extension à son visage, une poudre rose animée, et où ses yeux et son profil, jadis trop saillants, semblaient maintenant résorbés. Mais une autre raison de ce changement consistait en ceci que, arrivée au milieu de la vie, Odette s'était enfin découvert ou inventé une physionomie personnelle, un caractère immuable, un genre de beauté, et sur ses traits décousus qui, pendant si longtemps livrés aux caprices hasardeux et impuissants de la chair, prenant à la moindre fatigue pour un instant des années, une sorte de vieillesse passagère, lui avait composé tant bien que mal, selon son humeur et selon sa mine, un visage épars, journalier, informe et charmant, avait appliqué ce type fixe comme une jeunesse immortelle. Swann avait dans sa chambre, au milieu des belles photographies qu'on faisait maintenant de sa femme, et où la même expression énigmatique et victorieuse laissait reconnaître, quelles que fussent la robe et le chapeau, sa silhouette et son visage triomphant, un petit daguerréotype ancien tout simple, antérieur à ce type, et duquel la jeunesse et la beauté d'Odette, non encore trouvée par elle, semblaient absentes. Mais sans doute Swann, fidèle ou revenu à une conception différente, goûtait-il dans la jeune femme grêle aux yeux pensifs, aux traits là, à l'attitude suspendue entre la marche et l'immobilité, une grâce plus botticellienne. Il aimait encore en effet à voir en sa femme un Botticelli. Odette, qui au contraire cherchait non à faire ressortir, mais à compenser, à dissimuler ce qui en elle-même ne lui plaisait pas, ce qui était peut-être pour un artiste son caractère, mais que comme femme elle trouvait des défauts, ne voulait pas entendre parler de ce peintre. Swann possédait une merveilleuse écharpe orientale bleue et rose qu'il avait achetée parce que c'était exactement celle de la Vierge du Magnificat, mais Madame Swann ne voulait pas la porter. Une fois seulement, elle laissa son mari lui commander une toilette toute criblée de pâquerettes, de bleuets, de myosotis et de campanules, d'après la primavera du printemps. Parfois, le soir, quand elle était fatiguée, il me faisait remarquer tout bas, comme elle donnait sans s'en rendre compte à ses mains pensives, le mouvement délier, un peu tourmenté, de la Vierge qui trempe sa plume dans l'encrier que lui tend l'ange, avant d'écrire sur le livre saint où est déjà tracé le mot magnifica. Mais il ajoutait, surtout ne le lui dites pas, il suffirait qu'elle le sût pour qu'elle fît autrement. Sauf à ces moments d'involontaire fléchissement où Swann essayait de retrouver la mélancolique cadence botticellienne, Le corps d'Odette était maintenant découpé en une seule silhouette cernée tout entière par une ligne qui, pour suivre le contour de la femme, avait abandonné les chemins accidentés, les rentrants et les sortants factices, les lacis, l'éparpillement composite des modes d'autrefois, mais qui aussi, là où c'était l'anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles en deçà ou au-delà du tracé idéal, savait rectifier d'un trait hardi les écarts de la nature, suppléer pour toute une partie du parcours aux défaillances aussi bien de la chair que des étoffes. Les coussins, le strapontin de l'affreuse tournure, avaient disparu ainsi que ces corsages à basques qui, dépassant la jupe et raidis par des baleines, avaient ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche et lui avaient donné l'air d'être composé de pièces disparates qu'aucune individualité ne reliait. La verticale des effilés et la courbe des ruches avaient cédé la place à l'inflexion d'un corps qui faisait palpiter la soie comme la sirène ballonde, et donner à la percaline une expression humaine, maintenant qu'il s'était dégagé, comme une forme organisée et vivante du long chaos et de l'enveloppement nébuleux des modes détrônés. Mais Madame Swann, cependant, avait su garder un vestige de certaines d'entre elles, au milieu même de celles qui les avaient remplacées. Quand le soir, ne pouvant travailler et étant assuré que Gilberte était au théâtre avec des amis, j'allais à l'improviste chez ses parents. Je trouvais souvent Madame Swann dans quelque élégant déshabillé, dont la jupe, d'un de ses beaux tons sombres, rouge foncé ou orange, qui avait l'air d'avoir une signification particulière parce qu'il n'était plus à la mode, était obliquement traversée d'une rampe ajourée et large de dentelle noire qui faisait penser au volant d'autrefois. Quand, par un jour encore froid de printemps, elle m'avait, avant ma brouille avec sa fille, emmené au jardin d'acclimatation, sous sa veste, qu'elle en trouvait plus ou moins selon qu'elle se réchauffait en marchant, le dépassant en dents de scie de sa chemisette avait l'air du revers entrevu de quelque gilet absent, pareil à l'un de ceux qu'elle avait porté quelques années plus tôt et dont elle aimait que les bords eussent ce léger déchiquetage. Et sa cravate, de cet écossais auquel elle était restée fidèle, mais en adoucissant tellement les tons, le rouge devenu rose et le bleu lilas, que l'on aurait presque cru à un de ces taffetas gorge de pigeon qui était la dernière nouveauté, était nouée de telle façon sous son menton, sans qu'on pût voir où elle était attachée, qu'on pensait invinciblement à ses brides de chapeau qui ne se portaient plus. Pour peu qu'elle sût durer encore quelque temps ainsi, les jeunes gens, essayant de comprendre ses toilettes, diraient « Madame Swann, n'est-ce pas, c'est toute une époque. » Comme dans un beau style qui superpose des formes différentes et que fortifie une tradition cachée, dans la toilette de Madame Swann, ses souvenirs incertains de gilets ou de boucles, parfois une tendance aussitôt réprimée au saut en barque, et jusqu'à une allusion lointaine et vague au « suivez-moi jeune homme », faisait circuler sous la forme concrète la ressemblance inachevée d'autres plus anciennes, qu'on aurait pu y trouver effectivement réalisées par la couturière ou la modiste, mais auxquelles on pensait sans cesse, et enveloppait Madame Swann de quelque chose de noble, peut-être parce que l'inutilité même de ses atours faisait qu'il semblait répondre à un but plus qu'utilitaire, peut-être à cause du vestige conservé des années passées, ou encore une sorte d'individualité vestimentaire particulière à cette femme, et qui donnait à ses mises les plus différentes un même air de famille. On sentait qu'elle ne s'habillait pas seulement pour la commodité ou la parure de son corps, elle était entourée de sa toilette comme de l'appareil délicat et spiritualisé d'une civilisation. Quand Gilberte, qui d'habitude donnait ses goûters le jour où recevait sa mère, devait au contraire être absente, et qu'à cause de cela je pouvais aller aux choufleuries de Madame Swann, je la trouvais vêtue de quelques belles robes, certaines en taffetas, d'autres en faille, ou en velours, ou en crêpe de Chine, ou en satin, ou en soie, et qui, non point larges comme les déshabillés qu'elle revêtait ordinairement à la maison, mais combinés comme pour la sortie au dehors, donnaient cet après-midi-là à son oisiveté chez elle quelque chose d'alerte et d'agissant. Et sans doute la simplicité hardie de leur coupe était bien appropriée à sa taille et à ses mouvements dont les manches avaient l'air d'être la couleur, changeante selon les jours. On aurait dit qu'il y avait soudain de la décision dans le velours bleu, une humeur facile dans le taffetas blanc, et qu'une sorte de réserve suprême et pleine de distinction dans la façon d'avancer le bras avait, pour devenir visible, revêtu l'apparence brillante du sourire des grands sacrifices, du crêpe de Chine noire. Mais en même temps, à ces robes si vives, la complication des garnitures sans utilité pratique, sans raison d'être visible, ajoutait quelque chose de désintéressé, de pensif, de secret, qui s'accordait à la mélancolie que Madame Swann gardait toujours, au moins dans la cernure de ses yeux et les phalanges de ses mains. Sous la profusion des porte-bonheurs en saphir, des trèfles à quatre feuilles d'émail, des médailles d'argent, des médaillons d'or, des amulettes de turquoise, des chaînettes de rubis, des châtaignes de topaze, il y avait dans la robe elle-même tel dessin colorié poursuivant sur un empiècement rapporté son existence antérieure, telle rangée de petits boutons de satin qui ne boutonnaient rien et ne pouvaient pas se déboutonner. Une soutache cherchant à faire plaisir, avec la minutie, la discrétion d'un rappel délicat, lesquels, tout autant que les bijoux avaient l'air, n'ayant sans cela aucune justification possible, de déceler une intention, d'être un gage de tendresse, de retenir une confidence, de répondre à une superstition, de garder le souvenir d'une guérison, d'un vœu, d'un amour ou d'une philippine. Et parfois, dans le velours bleu du corsage, un soupçon de crevé Henri II, dans la robe de satin noir un léger renflement, qui soit aux manches, près des épaules, faisait penser au gigot 1830, soit au contraire sous la jupe, au panier Louis XV. Donnait à la robe un air imperceptible d'être un costume, et en insinuant, sous la vie présente comme une réminiscence indiscernable du passé, mêlait à la personne de Madame Swann le charme de certaines héroïnes historiques ou romanesques. Et si je le lui faisais remarquer, « Je ne joue pas au golf comme plusieurs de mes amis, » disait-elle, « je n'aurai aucune excuse à être comme elle vêtue de sweaters. »